Laudetur Jesus Christus.
Veille d'ouverture de scrutin dans la plus grande démocratie au monde. Du 19 au 1er juin prochain, 970 millions d'Indiens sont appelés aux urnes pour des législatives. Le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi compte bien rester en poste après 10 ans de pouvoir. À Kiev, les autorités ukrainiennes appellent la population et les entreprises du pays à restreindre leur consommation en énergie. Le soutien à l'Ukraine est au cœur notamment du sommet du G7 qui s'ouvre à Capri aujourd'hui. Des poubelles incendiées, des touristes agressés en Guadeloupe, un couvre-feu de 2 mois a été instauré pour les moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre, les violences et les jeunes. L'actualité aussi de Gabriel Attal pour ses 100 jours à Matignon. Et puis enfin, un nouvel épisode de tensions diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. La junte militaire à Ouagadougou a décidé d'expulser 3 diplomates français pour activités subversives. Nous retrouverons notre correspondant régional.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. C'est donc un véritable marathon électoral qui commencera demain en Inde. 44 jours d'opération de vote pour désigner des députés fédéraux. Ce seront les législatives les plus longues de l'histoire du pays. Grand favori des sondages, le BJP, le parti nationaliste hindou du Premier ministre sortant, Narendra Modi, cherchera cette année, après avoir remporté les 2 précédents scrutins, à obtenir la majorité absolue. Virmani Arundhati est historienne de l'Inde coloniale, contemporaine à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle revient sur ce que veut obtenir le chef du gouvernement indien.
Narendra Modi cherche une troisième victoire électorale qui va renforcer sa légitimité. Ses ambitions sont assez claires. D'abord, la volonté de distinguer l'Inde comme un acteur clé dans l'arène internationale. Avec ça, il y a une ambition plus propre à lui, c'est de se distinguer comme un acteur clé dans l'histoire post-indépendance de l'Inde. Donc les aspects qui sont mis en avant, c'est réaliser un développement économique, d'affirmer l'Inde comme une puissance scientifique, mais plus encore, un État centralisé très fort, tout en maintenant ce cadre d'une démocratie électorale. Donc une victoire. Le slogan, c'est de gagner plus de 400 sièges dans le Parlement, qui lui garantit une majorité absolue, où le parti ne dépend pas des coalitions et des alliances avec d'autres partis, leur donnerait la possibilité de traduire leur programme dans les lois sans opposition et sans grand débat.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Un aéroport fermé, plusieurs milliers d'habitants évacués en Indonésie. Les services de secours sont mobilisés dans le nord de l'archipel. On craint un tsunami alors qu'un volcan, le volcan Ruang, est entré en éruption 5 fois depuis mardi dans la province du nord de Célèbes. À Jakarta, tout autre problématique. Le président indonésien sortant et son successeur ont reçu aujourd'hui le chef de la diplomatie chinoise. Il aurait été fait mention d'exercices militaires conjoints. Grand investisseur en Indonésie, Pékin compte sur le pays pour renforcer son influence régionale. Livraison d'explosifs ou de composants électroniques, le soutien croissant de la Chine à l'effort de guerre russe inquiète les Américains. Le secrétaire d'État Antony Blinken demandera aux Européens de faire pression sur Pékin lors du G7 des ministres des Affaires étrangères. Il s'ouvre aujourd'hui à Capri. Un G7 où la guerre en Ukraine domine déjà. Kiev a un besoin urgent en défense anti-aérienne, a lancé tout à l'heure le chef de l'OTAN. Kiev a besoin de protéger ses citoyens et ses installations énergétiques bombardées par les Russes. Ce jeudi, le ministère ukrainien d'énergie appelle d'ailleurs la population et les entreprises du pays à limiter leur consommation d'électricité. Jean-Benoît Harel.
Oui Marie, entre 19h et 22h, les civils et les entreprises ukrainiennes sont désormais invités par le gouvernement à réduire l'utilisation d'appareils énergivores pour éviter de saturer le réseau électrique déjà très abîmé. Alors que la température stagne entre 5 et 10 degrés seulement, le système électrique en Ukraine subit depuis un mois une nouvelle campagne d'attaques de missiles et de drones de la part de la Russie. Des attaques qui aurait endommagé 80% des capacités de génération électrique du pays, selon Kiev. L'armée ukrainienne, elle, est à la peine face à ces frappes. Le président Volodymyr Zelensky s'est plaint d'un manque de munitions, citant l'exemple de la centrale de Tripia, près de la capitale, entièrement détruite le 11 avril par plusieurs missiles non interceptés. On avait 0 roquette, s'est-il désolé. L'hiver dernier, les Russes avaient déjà tenté de détruire les structures énergétiques dans une stratégie de paralysie de l'Ukraine, mais la plus forte intensité des frappes et l'absence de défense aérienne efficace découragent les techniciens chargés de réparer ces infrastructures vitales. Le pays, raccordé au système européen, n'est pas encore plongé dans le noir, mais cela pourrait être le cas dans les prochains mois, car selon les prévisions, le déficit d'énergie ne pourra que s'aggraver à partir de juillet prochain.
Merci Jean-Benoît Arel. Et puis en Ukraine, l'armée russe est à l'offensive et le Kremlin assure qu'un éventuel soutien américain ne changera rien à la situation sur le front. Le Congrès américain est en effet appelé à se prononcer samedi sur une aide militaire et économique de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Les États-Unis qui emboîtent le pas avec le Royaume-Uni à Bruxelles, ils ont à leur tour annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran, contre son programme de drones, son industrie sidérurgique et ses constructeurs automobiles. Une réponse à l'attaque du week-end dernier iranienne contre Israël. Ce soir, le chef de l'ONU s'alarme. Selon Antonio Guterres, le Moyen-Orient est au bord du précipice d'un conflit généralisé. L'ONU qui a lancé un appel aux dons de près de 3 milliards d'euros pour venir en aide aux civils gazaouis. Et sur le front diplomatique, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur la demande des Palestiniens de devenir un État membre à part entière des Nations Unies. Une demande poussée par les diplomaties arabes. Le vote pourrait avoir lieu aujourd'hui ou demain, mais pourrait se heurter au veto des États-Unis. Ce jeudi, en France, les 100 jours de Gabriel Attal à Matignon, le Premier ministre a choisi de se rendre à Viry-Châtillon, une ville au sud de Paris où un jeune de 15 ans a récemment été passé à tabac près de son collège, en est mort. Gabriel Attal a appelé à la mobilisation générale pour juguler la violence des jeunes. On ne peut pas laisser des jeunes de 14 ans circuler avec des armes dans la rue à 22h. C'est cette fois le ministre français de l'Intérieur qui s'exprime. Gérald Darmanin a imposé aujourd'hui un couvre-feu pour les moins de 18 ans dans la ville guadeloupéenne de Pointe-à-Pitre. Monseigneur Guy Gougou est l'évêque du diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Il revient sur les causes de la violence des jeunes sur place.
Ce qu'on peut dire, c'est que, sans une évidence, Pointe-à-Pitre s'est petit à petit dégradé, en fait. Et ce que le maire lui-même dit, on a constaté cette dégradation au fil des années. Sur une ville qui était une ville florissante au niveau commerçant, en fait, il y a quelques années, ça ne l'est plus. Donc, on a un habitat plus insalubre, plus compliqué, ce qui a laissé place, visiblement, à une délinquance plus importante. Donc, on voit un peu, c'est le cocktail du chômage, d'une non-réussite pour certains au niveau des études. C'est le cocktail aussi d'une famille quelquefois en difficulté. Ben, tout ça donne un peu un cocktail explosif d'une jeunesse qui n'arrive pas à se positionner et à trouver un avenir finalement sur l'île. Et donc j'invite un peu l'ensemble des fidèles et des structures d'église, des prêtres, à sortir un peu de notre zone de confort et de nos presbytères. Pour une église missionnaire, aller aux périphéries pour que nous puissions rejoindre cette jeunesse.
C'est Monseigneur donc Guy Hougou, l'évêque du diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. De nouvelles tensions diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, je vous le disais en titre, Ouagadougou a en effet décidé d'expulser 3 diplomates français, parmi lesquels 2 conseillers politiques à l'ambassade de France déclarés persona non grata. Les fonctionnaires sont accusés d'activités subversives et doivent quitter le pays sous 48 heures, les précisions de notre correspondant dans la région, Abdulrazak Idrissa.
C'est dans une note adressée à l'ambassade de France à Ouagadougou que les autorités militaires de transition du Burkina Faso ont ordonné l'expulsion de ces 3 diplomates. Parmi eux, 2 conseillers politiques, ils sont accusés d'activités subversives sans précision. Un délai de 48 heures leur a été donné pour quitter le territoire burkinabé. Paris, qui n'a plus d'ambassadeur au Burkina Faso depuis plusieurs mois, n'a pas encore réagi. C'est la 2e expulsion de ressortissants français du Burkina Faso en moins de 2 ans. Les relations entre les 2 pays se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci a dénoncé un accord militaire datant de 1961 et obtenu le départ des forces françaises présentes au Burkina Faso pour mieux lutter contre le djihadisme qui l'endeuille depuis plusieurs années. Avec plus de 20 000 morts et environ 2 millions de déplacés, le Burkina Faso s'est rapproché de ses 2 voisins confrontés au même défi, le Mali et le Niger, mais aussi de la Russie. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
C'est sa première visite à l'étranger. Le nouveau chef d'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est en visite officielle ce jeudi en Mauritanie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La chaleur meurtrière qui a frappé les pays du Sahel au début du mois d'avril est bien d'origine humaine. C'est ce que rappelle ce jeudi le World Weather Attribution, un réseau international de scientifiques qui publie régulièrement des études sur le climat. Avec des températures au-delà de 45 degrés, le Mali, le Burkina Faso ont été particulièrement touchés. Le Sahel où la sécheresse s'est accrue ces dernières années reste une région particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Et puis enfin, plusieurs centaines de migrants syriens refoulés de Chypre et renvoyés au Liban. Ils ont été interceptés dans les eaux territoriales chypriotes en début de semaine par la police et les gardes-côtes. Certains réfugiés témoignent de menaces par armes à feu de la police chypriote. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.